Les matins de France Culture.
Le biais politique, Ludovic Piétenu, restaurer l'autorité à l'école.
Oui, je vous ai écouté Jean-Michel Blanquer, c'était lundi matin, avant-hier, chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. En toute fin d'interview, vous avez dit ceci.
Quand vous sanctionnez un élève, le but doit être que ça lui serve à quelque chose, qu'il comprenne qu'il a cogné contre un mur et qu'il faut comprendre la règle et aussi s'enrichir d'une leçon pour la fois d'après. Si vous avez insulté quelqu'un, eh bien, il est bon d'avoir un moment où on vous fait comprendre un certain nombre de règles du jeu dans la relation avec les autres.
Alors la sanction, le sens de celle-ci, sa proportionnalité, on vous entend bien, on entend bien votre raisonnement, mais si vous exposez ce sujet, si vous en parlez, c'est bien qu'il y a des difficultés et qu'il y a donc nécessité à agir. Sous le précédent quinquennat, François Hollande, lors de ses vœux au monde éducatif en janvier 2015, aura lui aussi à se prononcer sur ce terrain. C'était ce qu'on a appelé son virage autoritaire à lui.
Tout comportement mettant en cause les valeurs de la République ou l'autorité du maître ou du professeur fera l'objet d'un signalement au chef d'établissement. Chaque fois qu'il y aura une mise en cause de la dignité, il y aura une réaction.
Et on poursuit notre voyage dans ses archives grâce à notre machine à remonter le temps. Nous sommes à présent le 15 février 2008. Nicolas Sarkozy, président de la République depuis moins d'un an, prononce un discours à Périgueux dans la ville de son ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos.
Dans le monde d'aujourd'hui, l'affirmation des valeurs morales, l'énonciation de règles de comportement applicables à tous sont une absolue nécessité. Alors cette instruction civique et morale prévoit notamment l'apprentissage des règles de politesse ou de courtoisie. Ce n'est pas faire du nationalisme que d'apprendre à nos enfants à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, à l'écoute duquel nos enfants devront se lever.
Nicolas Sarkozy, en 2008, vous êtes à ce moment-là, vous, Jean-Michel Blanquer, recteur de l'Académie de Créteil depuis 2007. Avant cela, en 2006, vous étiez au ministère de l'Éducation nationale, un bref passage comme directeur adjoint au cabinet du ministre Gilles de Robien. Mais pendant le quinquennat Sarkozy, après votre époque rectorat de Créteil, vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire dans ce même ministère entre 2009 et 2012. Vous êtes connu du monde éducatif, mais dans l'esprit de celui-ci, votre œuvre sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy rime plutôt avec coupes budgétaires et suppression de postes, on parle de 80 000 à cette époque. Est-ce bien raisonnable quand on veut restaurer les valeurs d'autorité, de respect, de politesse ou de courtoisie? Et que se disait-il encore chez nos politiques avant cela, au début du siècle, sous Jacques Chirac, un président plutôt taiseux sur le sujet de l'éducation nationale? En mai 2001, on est alors sous cohabitation. Le ministre de l'Éducation s'appelle Jack Lang et le président de la République sort de sa réserve, comme on peut le lire à l'époque dans le quotidien La Croix. Il est à la tribune du 82e congrès de la Fédération des parents d'élèves, la PEP, et il réaffirme les grandes valeurs, les grands principes qui doivent régir l'école. Il est, peut-on lire encore dans cet article, très attendu sur ce sujet par les parents d'élèves qui font de la violence scolaire, Guillaume, leur souci numéro un, et il dit ceci.
Oui, je vais le dire, mais je n'imiterai pas Jacques Chirac.
Sans
même
imitation,
si
allez-y.
Vous l'attendez, Ludovic. Rien ne saurait légitimer la violence et le non-respect de l'autre.
Sur le front des mesures, Jacques Chirac s'inspire des propositions d'Éric Debarbieux, spécialiste de la violence à l'école, qui inspire déjà, lui, depuis deux ans, 1999, les mesures de lutte contre la violence, respect des règles, sanctions immédiates. Jacques Chirac, encore.
Toute transgression, dit Jacques Chirac, doit être suivie d'une sanction ou d'une réparation.
Lui qui était, paraît-il, un enfant turbulent s'attache donc, une fois président, à faire respecter l'autorité, car il incarne l'autorité. N'est-on pas là, en réalité, au cœur du sujet? N'est-ce pas vous, les politiques, qui souffrez d'autorité ou pensant en souffrir, répétez comme un mantra depuis des années, l'autorité, 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 sans finalement jamais parvenir à régler le problème dans le milieu scolaire, Jean-Michel Blanquer?
Je ne crois pas. Je pense que votre billet est assez significatif du génie français. C'est-à-dire parce qu'il est bien troussé, il est à certains moments même drôle, mais il y a comme une espèce de défiance vis-à-vis de l'autorité qui fait partie du génie français, et c'est une bonne chose, parce qu'on doit toujours avoir ce sens de la liberté. Mais en même
et
temps...
une défiance vis-à-vis du politique aussi.
Mais une défiance vis-à-vis du politique, là aussi, génie français. mais attention, parce que ça a un effet pervers, c'est que on dévalorise l'idée d'autorité, parce qu'il y a cette petite connotation conservatrice inquiétante que l'on met derrière cela. En partie à juste titre, en partie à mauvais escient. Parce que on ne doit jamais oublier que l'autorité, c'est d'abord et avant tout au profit des plus faibles. C'est en réalité le premier.
Est-ce que c'est sécurité... pas plutôt le faire valoir du politique, justement?
Bon, écoutez, moi je ne suis pas comptable de toutes les citations qu'on vient d'entendre.
Non, mais pour vous, par exemple, dans la situation d'Emmanuel Macron, Est-ce que ce n'est pas gain en termes de popularité que de parler d'autorité ?
Il est absolument évident, sans faire de la philosophie politique trop rapide, mais que, bien entendu, le pouvoir politique incarne l'autorité et que c'est absolument indispensable dans tout pays, dans toute nation, et que c'est même le principe même d'une institution avec un grand I que de créer une autorité. Cette autorité est l'inverse de l'autoritarisme. L'autorité, c'est ce qui permet de protéger tout le monde, et encore une fois, les plus faibles. Vous savez, dans un établissement, quand l'autorité n'est pas respectée, qui en pâtit? Les plus faibles. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'ai été amené à intervenir personnellement pour contribuer à rétablir l'ordre dans un lycée qui avait défrayé la chronique. Et dans ce lycée, vous aviez 10% des élèves qui avaient pris le pouvoir, en quelque sorte. Et ils l'avaient pris parce qu'il y avait, l'autorité était affaiblie.
On s'en souvient bien.
Et qui étaient les victimes de ça? C'était les filles, c'était les élèves les plus fragiles, etc. Donc, si vous voulez, l'autorité, c'est le progrès. C'est ce qui permet à tous de vivre bien, tout simplement.
On en est tous, évidemment, d'accord lorsqu'il s'agit de cette autorité-là. Mais d'un autre côté, Jean-Michel Blanquer, vous avez beaucoup promu, vous et en quelque sorte, les différentes réformes depuis que vous êtes là, depuis un an, l'école Montessori, des formes d'école alternatives où l'autorité est largement moins forte qu'auparavant, et on considère que l'affaiblissement de l'autorité, là pour le coup, est un atout pédagogique.
Mais parce que justement, on ne doit certainement pas opposer les deux choses, et vous avez raison de dire les choses ainsi, parce qu'en réalité, justement, j'avance sur deux pieds. D'abord, en matière éducative, c'est vrai à l'école, c'est vrai dans la vie de chacun, l'autorité, si on prend même la racine étymologique, l'autorité, elle vient par le savoir, d'abord, elle vient par l'acte pédagogique. Donc, la situation normale, c'est une situation où on n'a pas besoin de faire respecter l'autorité, parce qu'elle vient tout naturellement, parce qu'il y a une passion du savoir, et de la part du professeur, et de la part des élèves. Ça, c'est la situation normale. Dès qu'il y a rupture dans cet ordre des choses, autrement dit, un élève qui en insulte un autre, qui en tape un autre, etc., eh bien, l'autorité doit être établie. Ça semble évident. Et le problème, c'est que il est exact que jusqu'à présent, eh bien, on a parfois eu des ruptures de cette autorité parce qu'on ne faisait pas assez respecter les règles. Et d'ailleurs, c'est facile à voir parce qu'on peut comparer des établissements les uns par rapport aux autres. Il y a des établissements où ça se passe de manière tout à fait normale et d'autres pas. C'est donc bien que dans le deuxième cas, il faut faire quelque chose. Une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est que j'ai dit à tous les chefs d'établissement, et notamment les principaux de collège, que ce ne serait plus considéré comme un critère de qualité d'un établissement qu'il y ait beaucoup ou peu de conseils de discipline. De façon à ce qu'on ne soit plus dans des logiques de thermomètre, mais qu'on soit tout simplement dans des logiques pragmatiques pour que, quand il doit y avoir une sanction, il y en ait une, sans dramatiser cela, sans que ce soit mauvais pour l'élève. Au contraire, on lui fait du bien, dès lors que cette sanction est adaptée et proportionnée.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, une question de mon camarade Hakim Kasmi.
Oui, Jean-Michel Blanquer, l'autorité, beaucoup de réformes cette année, avec parfois le sentiment qu'il y a trop de réformes d'un coup. Alors, notamment sur le baccalauréat qui va être réformé, avec notamment les secondes de l'année prochaine, il y aura 4 épreuves désormais à la fin, 2 majeures, 2 mineures. Mais ce qui inquiète une partie des enseignants et surtout des parents d'élèves, c'est que vous voulez donner plus d'autonomie, les élèves pourront choisir leur matière, notamment en seconde et surtout en première. Est-ce que vous ne craignez pas que les élèves, entre guillemets les plus défavorisés, ne fassent pas les bons choix parce qu'ils n'auront pas des parents, cadres, enseignants qui pourront les aider à utiliser la bonne stratégie, d'autant que cette réforme du bac va avec Parcoursup, qui lui aussi est très sélectif.
Jean-Michel Blanquer.
C'est évidemment une très bonne question. Vous remarquez qu'elle est symétrique de la précédente. Autrement dit, à les autres types, cette fois-ci, je donnerais trop de le problème, ce serait de donner trop de liberté aux lycéens. En effet, il y a une liberté supplémentaire aux lycéens, pour les lycéens, et je l'assume évidemment pleinement. Et comme à chaque fois qu'une liberté supplémentaire est donnée, il faut s'assurer que les effets pervers n'existent pas. Donc, il y a en effet un risque d'effet pervers si disons, un élève mieux informé choisit des options, choisit des sortes de parcours codés. Mais précisément, la réforme du lycée a pour vocation d'en finir avec les parcours codés, notamment avec la fin des séries. Il n'y aura plus de supériorité hiérarchique de telle discipline par rapport à telle autre. On choisira une discipline parce qu'elle nous intéresse. Demain, si vous voulez, si votre but dans la vie est, par exemple, de faire Sciences Po, de l'une des villes de France où il y a Sciences Po. Eh bien, vous n'allez pas faire, aujourd'hui, beaucoup choisissent comme stratégie de faire la série S, parce que, à tort ou à raison, elle a un certain prestige. Eh bien, demain, si vous aventurez à faire maths et physique-chimie pour vous préparer au mieux à faire Sciences Po, vous allez peut-être vous mettre en position d'infériorité par rapport à ceux qui auront choisi d'approfondir l'histoire et la géographie ou les sciences économiques et sociales. Donc, vous voyez bien qu'on va vers une beaucoup plus grande authenticité des choix, et cette authenticité des choix, elle peut parfaitement être explicitée par ceux qui conseillent les élèves, et on va renforcer cette dimension d'orientation. Dès l'année prochaine, en classe de seconde, donc avant les choix, il y a 54 heures d'orientation pour tous les élèves, et c'est une réalité à partir de septembre 2018.
Oui,
mais vous savez qu'il y a aussi le phénomène d'autocensure, notamment chez les jeunes issus de zones d'éducation prioritaire, qui parfois ont le niveau, enfin même souvent ont le niveau, mais se disent « Ah ben non, Sciences Po, c'est pas pour moi, les grandes facultés comme Dauphine, ce n'est pas pour moi ». Comment on peut lutter aussi contre l'autocensure ?
Eh bien, justement, d'abord, en faisant des choix authentiques correspondant à ses désirs et ses passions, les spécialités que l'on choisit, donc. Deuxièmement, en ayant du temps pour l'orientation, c'est les 54 heures dont je viens de parler, et avec du volontarisme de la part de l'institution, puisque nous allons effectivement être dans ce volontarisme pour que les élèves de tous les milieux sociaux puissent accéder aux études supérieures les meilleures. C'est évidemment ce qui va se passer au travers des mesures que j'ai indiquées.
Une dernière question, Jean-Michel Blanquer, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Vous avez beaucoup insisté sur les sciences cognitives. Vous dites que vous êtes pragmatique, mais vous êtes aussi un intellectuel, ce qui est un compliment ici à France Culture. Mais ça, on pourra en discuter. Mais en tout cas, l'intérêt des sciences cognitives, n'est-ce pas aussi un parti pris idéologique, pas au sens partisan du terme, mais partisan au sens où finalement ces sciences reconnaissent une forme d'intelligence et peut-être beaucoup moins les autres.
Écoutez, si la pensée des Lumières, c'est un parti pris, eh bien oui, j'ai un parti pris, et mon parti pris, c'est la République et les Lumières.
Oh, là, vous ne pouvez pas vous en tirer avec cette pirouette,
Non, je vais développer, rassurez-vous. Je pense qu'il y a quelque chose de très important qui se joue derrière votre question. Parce que je crois, oui, en effet, je crois que l'école est l'institution fondamentale de la République, et je crois qu'elle incarne ce que la République promet depuis le début, c'est-à-dire, oui, un certain progrès, bien sûr. Nous savons aujourd'hui que l'idée de progrès, avec tout ce que nous avons vécu au XXe siècle, doit être mise en perspective. Mais néanmoins, oui, la connaissance aide l'individu et les collectivités humaines à progresser. Et oui, l'école incarne cela et elle avance grâce au savoir. Et donc, il y a pas une discipline, mais des disciplines qui aident à progresser sur les sujets d'éducation. Il y a des choses que nous savons aujourd'hui que nous ne savions pas auparavant. Il y a des choses qu'on savait auparavant qu'il ne faut pas oublier parce qu'elles sont utiles. Tout cela compose un ensemble qui doit nous permettre de progresser. Et d'ailleurs, d'autres pays que nous le font et progressent grâce à cela. Donc, nous risquons d'être en retard si nous ne le faisons pas. Et alors, je suis, moi, frappé par les débats qui peuvent exister autour des sciences cognitives, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une des formes de ces débats-là révèlent une des formes de l'obscurantisme qui renaît.
Pourquoi
aujourd'hui. Mais parce qu'il y a de il y a de la pensée anti-scientifique derrière cela.
Il y a aussi l'idée, par exemple, que l'intelligence peut être créative
les
sciences cognitives reconnaissent plus un certain nombre de processus d'apprentissage qui sont plus portés, encore une fois, vers les mathématiques, vers quelque chose.
Non, c'est un cliché. C'est vraiment un cliché. Et au contraire, les sciences cognitives délivrent en ce moment même, alors même qu'on est au début de l'histoire des sciences cognitives, beaucoup de choses nous seront révélées dans le futur. Mais les sciences cognitives, au contraire, nous relèvent des choses assez optimistes sur l'homme. Et notamment la créativité, par exemple, le potentiel d'empathie de l'enfant tout petit et qui peut être en quelque sorte stimulé par la vie collective, d'où le fait qu'il faut que tout le monde aille à l'école maternelle, les enjeux autour du langage, les enjeux autour de l'art. Au contraire, les sciences cognitives nous disent comment ces choses-là ne doivent pas être opposées, comment le fait de baigner dans le langage, le fait de baigner dans la culture va être favorable aux apprentissages fondamentaux. Donc il faut justement sortir de clivages un petit peu factices que l'on crée entre ce qui serait rigoureux, un peu austère, puis ce qui serait jovial et créatif, si vous voulez. En réalité, les choses se nourrissent elles-mêmes. Les sciences cognitives, de mille façons, contribuent à penser cela. Et par ailleurs, ce sont des sciences, donc elles nous disent quelque chose qui a un rapport avec le vrai. C'est quand même pas rien. L'école, ça doit quand même être le lieu du vrai, du bien, du beau. Ça paraît assez simple d'avoir à le dire, mais je le souligne fortement quand même.
Merci d'avoir été en notre compagnie, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Vous publiez « Construisons ensemble l'école de la confiance » aux éditions Odile Jacob. Il est 8h31 sur France Culture et nous recevons Nathalie Mons. Bonjour, vous êtes présidente du Conseil national de l'évaluation du système scolaire, professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise. J'ai souhaité vous inviter pour tenter de faire le point, en quelque sorte, sur ces différentes controverses, ces débats qui sont aujourd'hui non seulement français mais internationaux sur l'école, pour savoir en quelque sorte si ces débats, par exemple sur les sciences cognitives, sur les méthodes d'apprentissage, sont aujourd'hui présents dans d'autres pays, s'ils sont formulés autrement qu'avec le génie français, pour employer un terme qu'employait il y a quelques instants Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.
Oui, si on regarde par exemple le débat autour évidemment des apports scientifiques dans l'éducation, on se rend compte que oui, partout, c'est quelque chose qui fait débat et c'est quelque chose aussi qui a été incorporé finalement avant nous. lorsqu'on regarde, par exemple, tous les pays qui sont tout en haut des palmarès de PISA, qui est la grande enquête de l'OCDE sur les acquis des élèves à 15 ans, par exemple la Finlande, par exemple le Japon, par exemple Singapour, on se rend compte que oui, il y a maintenant un historique d'intégration des résultats de la recherche dans les apprentissages des élèves, dans surtout les formations des enseignants. Donc finalement, nous, c'est bienvenu aujourd'hui de l'intégrer et on a à regarder ce qui se passe évidemment au-delà de nos frontières, puisque on a à prendre évidemment des résultats scientifiques. Alors ces résultats scientifiques, évidemment, psychologie cognitive, mais aussi économie, sociologie, sciences politiques, parce que bon, on parle des apprentissages, mais il y a aussi des politiques scolaires. Qu'est-ce qu'on fait sur les politiques de déségrégation? Qu'est-ce qu'on fait sur les politiques d'enseignement professionnel? Bref, on a tout un ensemble finalement de résultats scientifiques qu'on peut apporter aujourd'hui à l'école.
Et alors dans ces conditions, comment expliquer, mais vous allez nous dire si c'est un lieu commun, comment expliquer à la fois les mauvais classements? Alors je ne vais pas rappeler les différents classements, mais certains sont extrêmement sévères, parce qu'il n'y a pas que le classement PISA, il y a aussi par exemple le classement TIMSS qui mesure les performances des élèves de CM1, et il a classé la France bonne dernière des pays européens, derrière la Slovaquie. Comment expliquer que nous soyons à la traîne, et ce depuis longtemps? Évidemment, ça n'a rien à voir avec la politique qui est menée depuis un an, donc il faudra faire le bilan plus tard, Nathalie Mons.
C'est une bonne question que le Conseil national d'évaluation du système scolaire s'est posé exactement dans ces termes lorsque sont apparus notamment ces résultats de TIMSS, qui est l'enquête en mathématiques au primaire, où la France se trouve là tout en bas du palmarès, à la fois pour les élèves en difficulté, mais on se rend compte aussi qu'on n'a plus d'élèves très avancés, donc c'est tout à fait inquiétant. On a du coup regardé quels étaient les traits communs des pays qui sont tout en haut de ces palmarès internationaux. On voit finalement se dégager différents traits communs. Premier élément tout à fait constitutif de ces politiques scolaires, c'est leur continuité dans le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la Finlande, lorsqu'on regarde maintenant l'Angleterre, lorsqu'on regarde le Japon, etc., même l'Irlande aussi qui a beaucoup progressé, on se rend compte que depuis 15 ans, on a une continuité dans les politiques scolaires. Et notamment, par exemple, en termes de formation initiale, c'est-à-dire des jeunes étudiants avant qu'ils rentrent dans le métier, et puis de formation continue des enseignants. Alors que chez nous, finalement, on construit la formation, on l'avait détruit il y a déjà deux quinquennats. Donc la formation continue et initiale est développée depuis 20-30 ans en étant irriguée par la recherche. Donc ça, c'est le premier point, une continuité dans les politiques de formation. Le deuxième point, également fondamental, c'est que les enseignants ne sont pas seuls. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde notamment aux primaires, on se rend compte, que ce soit au Japon, que ce soit en Finlande, ou à Singapour, on se rend compte que finalement, ces enseignants, ils vont trouver à proximité dans l'école ou à proximité dans la région des ressources, des personnes qui vont venir les aider pour régler les problèmes des difficultés scolaires de certains élèves. Par exemple, je pense au programme à Singapour en mathématiques où tous les élèves sont testés quand ils rentrent dans l'école primaire, et selon leur niveau, ils vont vraiment avoir droit à un soutien particulier. Pas une heure comme ça de temps en temps, non, de 4 à 8 séances par semaine, de façon à les remettre tous à niveau. Voilà. Donc les enseignants ne sont pas seuls, ça c'est important.
Ce qui est étrange, c'est en fait qu'il y a un vrai décalage entre ce niveau assez faible de la France, on l'a dit, dans les différents classements, et l'investissement scolaire des familles. Ce qui est frappant, c'est la manière dont les familles s'impliquent aujourd'hui dans l'enseignement. Alors vous allez nous dire si il s'agit d'une statistique moyenne avec de profondes différences entre les différentes familles. En tout cas, on a l'impression que l'école est un sujet qui est pris extrêmement au sérieux par les familles, beaucoup plus peut-être qu'auparavant. Nathalie Mons, vous qui êtes sociologue spécialiste de l'éducation.
Oui, parce que en France, nous avons vraiment une vénération pour le diplôme. Il y a un lien très fort, évidemment, entre le niveau de diplôme et après les capacités d'insertion des jeunes. C'est même une des caractéristiques françaises. Donc, à partir de là, oui, il y a un investissement très important et croissant, vous avez raison, des familles sur les 20 dernières années. On peut le voir notamment avec un investissement croissant dans les cours particuliers. Alors, les cours particuliers, on pourrait penser que ce ne sont que les familles favorisées. Non, lorsque le Conseil national d'évaluation du système scolaire a regardé quelles étaient les familles qui avaient accès, qui demandaient, qui avaient recours aux cours particuliers, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a certaines communautés immigrées, notamment les communautés maghrébines, qui ont énormément recours à des cours particuliers. Deux fois plus les communautés à niveau de catégorie sociale équivalente, ces familles-là ont deux fois plus recours que des familles françaises de base. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un investissement de toutes les catégories et également des catégories populaires.
Lorsque l'on voit donc cet investissement différent, ces dépenses aussi nationales, puisque on considère que l'éducation nationale en France coûte cher, elle coûte notamment cher. Vous faites la moue, expliquez-nous.
Non, on est vraiment dans la moyenne des pays de l'OCDE avec historiquement un sous-investissement dans le primaire au bénéfice du secondaire. Donc non, l'éducation ne coûte pas spécialement cher en France, on est vraiment dans la moyenne.
Ce que j'allais vous dire, c'est que le salaire des professeurs est particulièrement modeste en France, 20 à 30% inférieur à la moyenne européenne.
En début de carrière.
Ce qui n'est pas le cas après.
Et ça s'inverse un petit peu après, oui, tout à fait.
Est-ce que ça signifie qu'il y a, par exemple, une répartition des budgets au sein de l'éducation nationale en France, donc, qui serait, par exemple, en faveur de l'encadrement ?
Non, pas du tout. C'est un ministère, au contraire, qui est sous-encadré. Et il va certainement falloir réfléchir à cet encadrement et à la formation, finalement, de tout l'inspectorat, qui est très très peu nombreux. Par exemple, les enseignants en France ne sont évalués que tous les 7 ans. Donc ça vous montre qu'il y a vraiment un problème d'encadrement.
Hakim Kasmi.
Oui, Nathalie Mons, bonjour. Tout à l'heure, vous parliez des enfants issus de l'immigration. Alors, on constate un phénomène aujourd'hui, c'est que de plus en plus de parents d'élèves, même s'ils n'ont pas trop les moyens, face au manque de professeurs, n'hésitent pas à mettre leur enfant dans le privé. Comment vous l'analysez ?
On n'a pas une progression très nette des effectifs du privé, ne serait-ce que parce qu'il y a finalement une forme de régulation nationale sur du 80% d'effectifs dans le public et puis 20% dans le privé. Non, on voit davantage se développer, comme je le disais, des cours, le recours à des cours particuliers. On a également, sur la dimension privée, davantage de recours à du coaching privé dans le cadre des problèmes d'orientation. Donc ça, il est plutôt bienvenu, évidemment, qu'il y ait un nouvel investissement dans l'orientation dans le cadre de la réforme du lycée, ces 54 heures dont nous parlait auparavant Jean-Michel Blanquer. On voit bien que là, on commence à se raccrocher à des grandes tendances aussi de politique scolaire qui développent l'orientation dans les autres pays de l'OCDE. Je pense par exemple à l'Australie, je pense à l'Angleterre, aux États-Unis. Là, on a vraiment des politiques d'orientation qui prennent au sérieux le conseil des jeunes à partir même de l'école primaire. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, avoir envie d'aller à Sciences Po, avoir envie de faire une classe prépa, bref, avoir envie aussi pour certains élèves d'aller à l'université alors que ses parents n'y ont jamais été, ça se prépare avec les parents dès le début avec des programmes d'incitation. Par exemple, l'Angleterre, pays libéral, s'il en est, investit énormément dans les politiques d'orientation pour élever les aspirations des jeunes et pour finalement conduire les jeunes qu'on appelle de première génération, c'est-à-dire les jeunes dont les parents ne sont pas allés à l'université, pour les conduire dans l'enseignement supérieur.
Hakim Kasmi.
Mais vous, Nathalie Mons, qui connaissez bien les inégalités sociales, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les réformes qui vont être mises en place, à savoir le bac, Parcoursup, vont véritablement permettre de lutter contre l'autocensure en zone d'éducation prioritaire ?
Ces 54 heures, elles me semblent fondamentales. Alors maintenant, c'est du temps qui est dédié. Je crois que c'est finalement la première fois qu'on va voir ce qu'on appelle une éducation à l'orientation, c'est-à-dire que l'orientation n'est plus finalement le seul conseil que peut donner le professeur principal, n'est plus le seul conseil que peut donner le conseiller en orientation. On a vraiment inscrit dans le programme des heures qui sont dédiées. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces heures ? C'est ça qu'il faudra regarder, évidemment.
Nathalie Mons, on a parlé tout à l'heure, de la méthode Montessori. Il y a aujourd'hui une vraie vogue en faveur de cette méthode en France. Est-elle justifiée ? Est-ce qu'elle repose sur des choses concrètes ? Qu'en pensez-vous ?
Là aussi, je crois qu'en France, nous avons vraiment besoin de former les enseignants de façon à ce qu'ils aient finalement dans leur besace d'enseignants une multiplicité de méthodes pédagogiques. Parce qu'en fait, on se rend compte que tous les élèves n'apprennent pas de la même façon. Et ce qu'on va expliquer d'une certaine façon à un élève peut ne pas aboutir à un apprentissage concret, et donc il va falloir être en capacité pour l'enseignant de l'expliquer d'une autre façon. C'est vraiment ça qui est au cœur des réformes qu'on voit à l'étranger. C'est pour ça que, par exemple, que la Finlande, qui a une formation initiale de 5 ans, c'est-à-dire il y a des facultés d'éducation. Mmh. On a 5 ans de formation à l'éducation, alors que chez nous, on en a à peine 2, dont une partie qui se trouve aussi en partie en exercice dans l'établissement. Donc voilà, le cœur finalement des progrès demain, c'est sur cette formation initiale et continue.
Et sur la vogue, on en a parlé là aussi, de la neuropédagogie ou de la neuroéducation. Faut-il en attendre beaucoup de choses ? S'agit-il à nouveau du tocade qui finira bien par passer ?
C'est pas une tocade dans ce sens où, évidemment, il est important pour les enseignants de comprendre comment leurs élèves apprennent. Mais c'est une des dimensions de l'apprentissage. La sociologie, je ne vais pas parler pour Ma Chapelle, mais il y a aussi évidemment beaucoup de choses à apprendre, à échanger avec les enseignants. Par exemple, qu'on peut avoir des codes culturels différents, on peut avoir des postures en tant qu'élève par rapport aux apprentissages différents selon son milieu social. On a des politiques qui sont plus ou moins efficaces quand on est dans des contextes qui sont ségrégés ou pas ségrégés. Enfin voilà. Donc en fait, il y a finalement un ensemble de disciplines universitaire qui concourt à améliorer l'éducation.
Hakim Kasmi.
Alors Nathalie Mons, aujourd'hui avec vous, je vais parler aussi de l'université, pensez-vous qu'aujourd'hui Parcoursup est un véritable critère de sélection, voilà, même si le gouvernement n'aime pas ce mot-là, est-ce que du coup cela va décourager les élèves, notamment les bacheliers, à partir à l'université, soit pour travailler ou soit pour aller dans d'autres formations ?
À mon avis, il faut prendre du recul et attendre les résultats finaux, puisque là, on est un peu au milieu du guet. Ça permettra certainement de voir, au final, qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut retravailler ? Est-ce que finalement ces heures d'orientation qui sont au lycée vont nous permettre de davantage donner des solutions aux élèves en amont ? Je crois que là, le bilan me paraît au milieu du guet un peu difficile à faire, en tout cas comme présidente du Conseil national d'évaluation du système scolaire.
Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle avec les lycéens, notamment dans les salons ou devant les lycées, beaucoup préfèrent choisir d'autres formations que l'université, les BTS ou même aller travailler parce qu'ils ont peur, on les a tellement effrayés que du coup ils ne veulent plus forcément partir à l'université.
Nathalie Mons.
On va se rendre compte, vous savez, que énormément de places vont se libérer, puisque par définition, on a demandé des classements dans des filières où l'on sait que l'ensemble des étudiants vont avoir des places. Donc, je pense qu'il faut certainement réfléchir à la formule, à la plateforme qui a été proposée, et surtout regarder ses résultats au final. Et aussi échanger en amont, j'insiste vraiment sur cette dimension-là, échanger en amont avec les étudiants sur leur choix. Voilà. Et puis derrière, reconstruire aussi toute une politique d'orientation, se demander comment on forme les enseignants professeurs principaux. Donc là, il y a des premières mesures qui ont été prises avec ces deux professeurs principaux par classe. Mais au-delà de ces mesures, je dirais quantitatives, il faut évidemment que ces professeurs principaux soient formés à la fois au métier futur et aux formations. On voit bien que cette année, il a été difficile pour ces enseignants de développer leur activité dans les conditions optimales, ne serait-ce que parce que au niveau de l'université, les critères n'étaient de sélection, de choix n'étaient pas posés en amont. Voilà.
Hakim Kasmi, merci. Nathalie Mons, je rappelle que vous êtes présidente du Conseil national de l'évaluation du système scolaire et professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise.